Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le psaume 119, ce matin, à partir du verset 57 jusqu'au verset 64. Il est écrit: ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Dans ce passage, il y a vraiment de bonnes choses. Celui qui a écrit cette partie du psaume, parce que finalement, on ne sait pas qui a écrit ce psaume, on ne sait pas si c'est une seule personne ou plusieurs personnes, mais il commence dans ce passage que nous sommes en train de lire, d'étudier du moins, par quelque chose de vraiment important. Vous savez, quand on s'adresse à Dieu, quand on vient à Dieu, la plupart des hommes, ils sont en train de demander à Dieu de faire sa part. Ils demandent à Dieu: Dieu, bénis-moi, Dieu, accorde-moi telle chose, Dieu, manifeste telle chose. Mais là, il commence en disant: ma part, c'est de garder ta parole. Et je pense que ça devrait parler à notre cœur. Parce que bien souvent, on demande à Dieu de faire des choses, mais nous-mêmes, on ne fait pas notre part. Et Dieu ne pourra rien faire si nous ne faisons pas notre part. Il ne pourra rien faire. Dieu ne contourne jamais sa parole. Dieu ne cherche pas des raccourcis et il faut que tous les éléments soient véritablement en place pour que Dieu puisse agir. Amen. Je sais que les hommes sont habitués à faire des choses non pas d'une façon exacte, mais dans un bricolage. On bricole une chose ou deux et on espère après que ça va fonctionner. Mais quand on veut que les choses fonctionnent, quelle que soit la chose que nous faisons, quelle que soit la chose que nous voulons, nous devons faire ce que nous avons à faire et de le faire correctement et avec exactitude. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est vrai dans le domaine des études, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, beaucoup de jeunes, ils veulent réussir leurs études. Et ça, c'est un bon désir de vouloir réussir ses études. Mais quand on ne fait pas sa part, bien, on ne réussira pas grand-chose. Si on ne fait pas sa part, et quelle est la part d'un jeune quand il veut réussir ses études? Eh bien, c'est d'aller à l'école, d'y aller régulièrement, d'écouter l'enseignement qu'on lui donne, de prendre de bonnes notes, et ensuite, quand il rentre chez lui, c'est d'étudier, de faire, par exemple, des fiches pour avoir un résumé des choses importantes qu'il a entendues et de réfléchir dessus, de les apprendre par cœur. Comme ça, quand arrivera l'examen, il n'aura plus qu'à réviser sans y passer, sans donner une énergie terrible, et parce que ça sera déjà en lui. Et quand il arrivera devant sa feuille d'examen, eh bien, il pourra répondre à toutes les questions sans angoisse, parce qu'il connaîtra les réponses. Et il connaîtra les réponses et il réussira. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa part. Par contre, quand on prend un jeune qui va à l'école ou à l'université, il vient quand il en a envie et quand il est assis en cours, il pense à tout sauf à ce que le professeur est en train de dire. Et quand il sort de cours, si on lui pose la question « Tu as étudié quoi ?», il ne saurait même pas le dire. Et quand il arrive chez lui, il fait tout sauf étudier. Il va se promener, en visite à ses amis, ou il va se coucher, ou il passe la soirée devant la télévision. Et c'est sûr que s'il se comporte comme ça, le jour où il va arriver l'examen, d'abord il va paniquer. Quelques jours avant, il va essayer par tous les moyens d'apprendre le maximum, mais ça ne pourra pas vraiment rentrer en lui, parce que pour que la connaissance au niveau des études rentre dans quelqu'un, ça prend du temps et ça demande quelque chose de constant et de continuel. Donc il saura un certain nombre de choses, et quand il sera devant sa feuille d'examen, il ne saura pas quoi répondre. Et ce n'est pas parce qu'il va prier la veille de l'examen en disant « Seigneur, montre-moi le sujet qu'on va avoir dans cet examen et donne-moi les bonnes réponses ». Dieu ne peut pas répondre à ce genre de prière. Dieu ne répond jamais à ce genre de prière, parce que ça voudrait dire que Dieu est un tricheur. Quand quelqu'un donne les réponses, ça veut dire qu'il triche. Ça, c'est un système que l'on trouve continuellement dans les écoles, dans les universités. Il y a celui qui connaît les réponses qui donne aux autres. Et quand il donne les réponses aux autres, il triche. Et les autres qui reçoivent les réponses qui lui ont été données, des choses qu'il ne sait pas, il triche aussi. Et Dieu n'est pas un tricheur. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine naturel de notre vie, nous avons toujours une part à faire. Et que ce soit dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel, dans notre marche avec Dieu, nous devons avant toute chose nous rappeler quelle est notre part. Parce que Dieu fait toujours sa part. Il est toujours prêt à faire sa part. Sans délai, sans retard, Dieu fait sa part. Il est toujours prêt à bénir, il est toujours prêt à agir. Mais quand on ne le voit pas, c'est que on n'a pas fait notre part. Amen. Et ma part, ta part, notre part, c'est de garder sa parole. De garder sa parole dans tous les domaines de notre vie. Parce que Dieu n'agira jamais en dehors de sa parole. Donc si nous voulons voir Dieu agir, nous devons connaître sa parole. Et pour la connaître, il faut la lire, mais pas seulement la lire, encore la méditer afin que cette parole soit en nous. Ça fait que au moment où nous avons besoin de prier à propos de la moindre chose, nous savons comment le faire. Nous savons comment prendre cette parole et la faire agir en notre faveur. Donc si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Mais si nous ne faisons pas notre part, Dieu ne pourra pas. Il ne pourra pas faire sa part. Et ce que dit cette personne dans ce psaume, et c'est vraiment une chose importante, il comprend et il vient dans sa position. Ma part, c'est de garder tes paroles. Ça, c'est ma part. Et il est bon de méditer sur ce genre de choses. Il est bon, dès le matin, de prendre ce genre de décision. Plutôt que de ne jamais faire sa part, de vivre dans le désordre, dans la médiocrité, de penser beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Et ensuite, quand on est dans un problème, de dire « Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours ». Dieu est un Dieu de secours. Dieu est bon, il est merveilleux, il nous aime. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions notre part de garder ses paroles. De garder ses paroles. Ensuite, il continue, verset 58, « Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. » Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Amen. Dieu n'a pas pitié de nous et nous n'avons pas besoin de lui demander d'avoir pitié de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Il vit en nous, il nous a adoptés, il nous a rachetés, il nous a purifiés. Celui qui a créé cela n'a jamais expérimenté ces choses. Il n'était pas adopté de Dieu. Il était sous l'ancienne alliance, il n'était pas né de nouveau. Vous et moi, nous sommes nés de nouveau et nous devons faire attention à la façon dont nous abordons Dieu selon l'alliance dans laquelle nous sommes. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez facile à comprendre. Dans une famille, il y a le père, la mère, les enfants. Les enfants ne vont jamais venir voir leurs parents en disant « aie pitié de moi ». Ça serait quand même quelque chose de très grave. Si un enfant dit à son père « aie pitié de moi », ça veut dire que son père est affreusement méchant. Nous pouvons avoir pitié, par exemple, lorsque nous voyons des gens qui sont mendiants, qui ont vraiment des problèmes, qui sont estropiés, qui souffrent, qui ont des problèmes de malformation, de déformation. Quand on voit ce genre de personnes, ça inspire la pitié en nous. Mais de nos propres enfants, nous n'avons pas pitié. Amen. Donc Dieu n'a pas pitié de toi, il n'aura jamais pitié de toi. Et quand on essaye d'attirer la pitié de Dieu, on se met dans une mauvaise position. On ne se met pas dans une position de fils ou de fille. Je suis ton fils, je suis ta fille. Tout ce que tu as est à moi. Parce que tu me l'as donné. Dans ces moments-là, nous n'avons pas besoin de la pitié de Dieu. Amen. Et n'essayons pas, parce que je sais que parfois il y a des gens qui le font peut-être inconsciemment, de manipuler Dieu par les sentiments et pitié de moi. Dieu n'a pas pitié de toi. Il a fait de toi son fils et sa fille. Donc prends cette position selon sa parole, selon ses promesses, selon l'alliance dans laquelle tu es aujourd'hui. Amen. Continue verset 59. « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Amen. Par contre, ça, tu peux le prendre pour ta vie. « Je réfléchis à mes voies. » En règle générale, on a cette fâcheuse tendance de réfléchir aux voies des autres, que ce soit les personnes de notre entourage, notre famille, nos amis, les gens avec lesquels on travaille ou on étudie. On est toujours en train de regarder ce qui se passe chez les autres. Et quand il y a un dysfonctionnement quelconque entre nous et ces personnes avec lesquelles nous sommes de toute façon obligés de vivre, on réfléchit toujours à ce qui se passe chez les autres. On voit leurs erreurs. Et on s'apitoie sur soi-même en disant, comme vraiment je ne mérite pas ça, vraiment comment je suis malheureux. Mais là, il ne dit pas ces choses, il dit, je réfléchis à mes voies. Et se remettre en question, ça ne veut pas dire non plus se mettre sous la culpabilité, penser que nous sommes les pires des personnes, que nous sommes affreux, horribles et complètement nuls. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça, ce n'est pas une bonne réflexion. Amen. La bonne réflexion, c'est quand tu marches dans ta vie de tous les jours, dans les choses que tu fais, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne réussit pas, dans les choses que tu fais ou dans les relations que tu as avec les autres, réfléchis à tes voies. Qu'est-ce que c'est que nos voies ? Ce sont nos façons de faire. Souvent, on voit le mal chez les autres et parfois, effectivement, il est là. Mais notre façon d'aborder les autres peut faire que les choses vont s'arranger ou les choses vont empirer. Et bien souvent, parce que nous ne réagissons pas de la bonne manière, parce que nous ne recevons pas, nous ne comprenons pas correctement les choses, on a cette tendance à aggraver. Et parfois, il y a des personnes qui se trouvent dans des situations vraiment graves, alors que au départ, ce n'était pas des choses extrêmement graves, ou du moins des choses qui n'étaient pas supposées les atteindre de plein fouet. Donc, réfléchis à tes voies. Réfléchis à la façon dont tu reçois les choses. La façon dont, quand quelqu'un te parle, tu reçois ce que cette personne te dit et ce que tu fais avec. Réfléchis. Peut-être qu'il y a 2-3 petits détails que tu devrais changer dans ta vie, dans ta façon de voir les autres, de parler avec les autres, dans la façon aussi de faire ton travail, d'étudier à l'école. Peut-être ce sont seulement 2 ou 3 petites choses qu'il faut changer. Alors, au lieu de réfléchir sur la méchanceté de ce monde, la méchanceté des autres, et de réfléchir sur le fait que tu es tellement malheureux, misérable et que tu ne mérites pas cela. Vous savez, ce genre de réflexion, ça nous mènera nulle part de toute façon. Par contre, réfléchir sur les petites choses que peut-être vous devriez changer. Peut-être, je ne dis pas certainement, je dis peut-être, c'est à chacun de voir pour lui-même. Réfléchir à ces petites choses, ça peut vous aider. Amen. Et je vous assure que quand on est toujours prêt à se remettre en question, dans le bon sens du terme, le Saint-Esprit va nous aider à rectifier, les choses que nous avons à rectifier, afin que nous puissions réussir en tout temps et en toute chose. Et ensuite, il dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Je me hâte. Je me hâte. Et bien souvent, quand le Seigneur parle, au travers de sa parole, au travers d'une prédication ou d'une autre manière, quand le Seigneur parle, il y a de la part d'un certain nombre de personnes de la négligence. Oui, je vais le faire plus tard. Et plus tard n'arrive jamais d'ailleurs. Lui, il dit, je me hâte. Il y a un empressement en lui, un empressement et un désir profond d'être en harmonie avec Dieu, avec la parole de Dieu et avec les choses de Dieu. Pourquoi y a-t-il un empressement dans ta vie? Pour quelle chose? Pour quelle personne es-tu empressé? Es-tu empressé pour Dieu? Es-tu empressé pour la parole de Dieu? Ou es-tu empressé pour d'autres choses? Ça, cela fait partie de notre part. Quand on voit quelqu'un qui a tellement soif de Dieu, tellement soif des choses de Dieu, qui veut voir Dieu agir dans sa vie, qui est prêt à tout pour cela, c'est une personne qui est bénie, c'est une personne qui progresse. Mais quand on a de la mollesse et de la lenteur par rapport aux choses de Dieu, bon, Dieu nous bénit parce que Dieu est bon, mais ça n'avance pas très vite. Et si ça n'avance pas très vite dans ta vie, peut-être c'est parce que tu manques d'empressement vis-à-vis de Dieu. Alors vous allez peut-être me dire, mais vous ne connaissez pas mes circonstances, vous ne connaissez pas mes problèmes. Lisons ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 3. Jésus est mort, il est ressuscité et il s'est montré déjà à ses disciples, mais ses disciples sont un petit peu désemparés parce qu'ils ne savent pas encore vraiment ce qu'ils sont supposés faire. Donc, comme ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont retournés aux choses qu'ils faisaient avant d'avoir rencontré Jésus. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais le disciple ne savait pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. On voit quoi chez Pierre? De l'empressement. Ils sont partis à la pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et une nuit, vous savez, quand on n'arrive pas à dormir, la nuit, c'est très long, n'est-ce pas? Et passer toute une nuit dans l'obscurité et dans le froid, à travailler, à essayer d'attraper des poissons et ne rien prendre, c'est très dur. C'est très fatigant. Il y a de quoi être vraiment déprimé. Et ça, c'est ce qu'ils ont vécu. Et parfois, dans la vie, on est en train de faire certaines choses, de travailler ou autre, et tu ne vois rien ou pas grand-chose. Et tu peux être vraiment fatigué. Il y a le Seigneur qui est là, sur le bord de la plage, et leur dit, jetez votre filet et vous allez trouver des poissons. Et c'est ce qu'il se passe. Et la pêche est d'ailleurs tellement grande qu'ils ont trouvé 153 grands poissons. 153. Donc, cela veut dire la chose suivante, c'est que Pierre était fatigué, il était découragé, il reçoit une parole du Seigneur et tous ces poissons sont là. Ensuite, il entend l'information suivante, c'est le Seigneur. Il aurait pu se dire, bon, je vais venir un peu plus tard parce que là, vraiment, il y a beaucoup de poissons. Il avait toutes les raisons d'attendre qu'on amène les poissons sur le bord de la plage, parce que passer toute une nuit sans rien, et puis après tu as vraiment une grande quantité de poissons, tu es intéressé par une chose, c'est par les poissons que tu viens de pêcher. C'est ça qui te motive. Mais cette motivation, elle n'était pas en lui. Dès qu'il a entendu « c'est le Seigneur », il a tout laissé. Il a même oublié les poissons qu'il venait d'attraper. il s'est jeté dans l'eau à la rencontre de Jésus. Il y avait un empressement chez Pierre. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils parlent de l'apôtre Pierre, ils ont cette tendance à le critiquer, à le mépriser, parce que Pierre, c'est celui qui parfois disait un peu n'importe quoi. Et c'est vrai. Pierre, c'est celui qui a renié Jésus 3 fois. Et c'est vrai. Mais il y a une chose que Pierre avait et qu'aucun des autres n'avait. Cet empressement pour le Seigneur. C'est Pierre qui a marché sur l'eau. Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, ça a déclenché quelque chose dans son cœur. Il a dit, si c'est toi, dis-moi que je vienne parce que moi aussi je veux marcher sur l'eau. Il y a eu un empressement et Pierre a marché sur l'eau. Pierre avait ce cœur pour Jésus, cet empressement. Il était prêt à tout laisser. Et ça, j'aimerais vous laisser avec cette question ce matin. Vous cherchez Dieu, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous êtes peut-être prêt à mettre en pratique cette parole que nous avons partagée ce matin. Mais si vous arrivez dans votre vie à un niveau où vous êtes béni et que vous n'avez plus besoin de rien, est-ce que vous seriez prêt à tout laisser pour suivre Jésus avec ce même empressement? Est-ce que vous seriez prêt à laisser votre bénédiction, votre bien-être, toutes les choses que finalement vous avez pu voir se produire et se réaliser dans votre vie, juste laisser ces choses et courir à Jésus avec empressement? Ça, c'est une grande question. Vous savez, beaucoup de personnes veulent de Jésus, ont soif de Jésus, parce qu'ils sont tellement désespérés. Et c'est vrai que Jésus est venu pour guérir la vie de ceux qui étaient désespérés. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour guérir ceux qui étaient désespérés. Que ce soit dans leur vie, dans leur cœur, que ce soit dans leur corps, dans leur situation, il est venu pour que les choses puissent changer et que sa gloire soit manifestée. Mais est-ce que c'est la seule motivation que vous avez pour le Seigneur? Est-ce que si tout va bien dans votre vie et que Jésus te dit « Viens, suis-moi, laisse toutes ces choses », est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que Jésus est vraiment ton trésor et ta priorité? Amen. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.